Bien investir avec Alison, une émission présentée par Alison Junglin sur Radio Immo.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Bien investir avec Alison sur Radio Immo. Alors aujourd'hui, on est sur une émission complètement différente de d'habitude. Vous le savez, normalement, je reçois à chaque fois un invité expert dans son domaine de l'immobilier. Et aujourd'hui, je me suis dit que j'avais pas mal de choses à vous expliquer sur les bases de l'immobilier, les bases de l'investissement. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de questions qui revenaient sur notre application Radio Immo concernant comment on fait pour investir et surtout, est-ce qu'il faut encore investir aujourd'hui ? Parce que c'est la grande question et c'est vrai que quand on écoute beaucoup ce qui se passe autour de nous, ça nous refroidit un peu dans l'investissement immobilier. Donc, je voulais vous donner mon avis et soulever quelques points qui me semblent importants. Donc déjà, première chose, est-ce qu'il y a un bon moment pour investir dans l'immobilier ? Alors, effectivement, il y a des moments plus propices que d'autres. Maintenant, aujourd'hui, ça fait maintenant 12, 13, 14 ans bientôt que j'investis dans l'immobilier. Donc, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Par contre, à aucun moment, je me suis dit, j'aurais pas dû acheter à cette période, c'était pas la bonne période. Parce que il faut savoir une chose, c'est que lorsqu'on regarde, par exemple, je vais vous donner un exemple tout bête, et c'est vraiment comme ça qu'il faut voir l'immobilier, c'est que si vous êtes focus sur le graphique, vous allez regarder sur un an ce qui se passe sur l'évolution du marché immobilier, ça se peut qu'en fonction de la période, ça soit en baisse et que finalement vous dites « Ah bah non, bah, l'immobilier est en train de chuter depuis toutes ces années où il monte, finalement le marché s'effondre, c'est pas le moment d'acheter ». Par contre, si on recule, en fait, on prend du recul sur ce graphique, on se rend compte que ça fait 100 ans que l'immobilier augmente tout le temps. Donc en fait, faut prendre du recul sur la situation et se dire, même si j'ai acheté un moment où c'était haut, par exemple, parce que c'est ça, en fait, qui fait peur, c'est d'acheter un moment où c'est haut et que finalement, derrière, ça dégringole. Donc même si on achète un moment où le marché immobilier coûte cher, hein, en gros, on va dire ça, finalement, il faut se dire, oui, mais ok, ça coûte cher, peut-être que ça va baisser dans les prochains mois, mais le but, c'est pas de le revendre dans les prochains mois. Là, on parle pas en tant que marchand de biens, on parle en tant qu'investisseur. Donc, à partir de ce moment-là, il faut se dire, je le garde, je le mets en location, je vais vous expliquer comment il faut calculer pour être sûr que ce soit un bien rentable et tout ça. Donc, ça, vous inquiétez pas. Mais à partir du moment où c'est un bien rentable, il faut l'acheter peu importe la période et se dire, je le garde. Et si un jour je veux vendre, évidemment, je vais pas vendre dans une période creuse. Je vais attendre un an de plus, un an ou deux ans, enfin, le temps que le marché se rétablisse. Et ensuite, je vais le vendre. Pour moi, même un mauvais investissement, qu'est-ce que j'appelle un mauvais investissement? C'est un bien immobilier qu'on a acheté trop cher par rapport au prix du marché, plus cher que le prix du marché. Finalement, le temps va jouer en votre faveur et va faire qu'il va devenir rentable. C'est juste qu'il ne faut pas vouloir le vendre trop vite. Donc ça, c'est le premier conseil que je peux vous donner. Alors, est-ce que ce conseil vous rassure ou pas? J'en sais rien, mais c'est vraiment le conseil que je peux vous donner pour vous dire, pour moi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise période. Parce que moi, je préfère voir quelqu'un en face de moi qui investit dans l'IMO à une période où on est, par exemple, post-Covid, où l'immobilier a fait un bond. Et se dire, mais cette personne est passée à l'action et aujourd'hui, elle possède un bien immobilier. Contrairement à quelqu'un qui est toujours en train d'attendre, par exemple, depuis le Covid. Donc, ça fait 4 ans que la personne, elle attend. Et finalement, il se passe rien. Donc, la personne n'a pas investi. Faut savoir que lorsque vous gardez votre argent en banque, par exemple, vous mettez votre argent de côté à la banque, vous avez à peu près un taux de 2%. Sauf que l'inflation de la vie, elle est plus que ça. Donc, quand vous avez de l'argent de côté, c'est comme si vous perdiez de l'argent tous les jours. Alors que lorsque vous investissez dans l'immobilier, déjà vous avez l'inflation de la vie et le coût de l'immobilier qui augmente lorsqu'on s'éloigne du graphique, comme je vous le disais. Et en plus de ça, il y a le fait que vous allez faire des travaux, ça je vais vous l'expliquer aussi. Vous allez faire des travaux, vous allez mettre en place des choses, une décoration spécifique, vous allez mettre en valeur votre bien, ce qui va faire que en fait votre argent va fructifier grâce à ça. Donc ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. Donc c'est toujours la bonne période d'investir dans l'immobilier. Et en gros, la meilleure période pour investir dans l'immobilier, c'était hier. Ça veut dire qu'il faut vraiment le faire. Et c'est ça qui va faire toute la différence entre ceux qui arrivent à investir dans l'immobilier et un jour se retrouver avec un patrimoine et pouvoir en vivre, et ceux finalement qui attendent le bon moment depuis des années. Et du coup, ils n'y vont pas et ils n'ont pas acheté d'immobilier ou très peu. Et du coup, ils ne peuvent pas en vivre. Donc ça, c'est la première chose que je voulais vous partager. Ensuite, j'ai quelques conseils à vous donner, par exemple, sur le crédit immobilier. Donc, déjà, au niveau du crédit immobilier, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut emprunter sur le plus longtemps possible. Alors ça, c'est on entend souvent, par exemple, je vous donne Ce que j'ai entendu dans toute ma jeunesse, moi, ma maman me disait « Alison, achète sur des crédits le plus court possible pour que ce soit vite remboursé et que tu sois vite tranquille. » Sauf qu'un crédit court, ça va être par exemple 10 ans. Mais est-ce que vraiment on a envie pendant 10 ans d'avoir, entre guillemets, la corde au cou, de se dire bah, « En fait, je rembourse difficilement mon crédit, je ne vis plus pendant 10 ans, mais dans 10 ans, je serai tranquille. Bah, » Non, en plus, on ne sait pas ce qui va se passer pendant ces 10 années-là. Donc moi, je suis plus... partisante de dire, ben, en fait, est-ce que, on ferait pas les crédits le plus long possible? Moi, j'emprunte donc sur 25 quand je peux, 20 quand, parfois c'est du locatif, la banque, un peu serre les dents et dit, non, on va pas jusqu'à 25, on va jusqu'à 20. Donc, dans ce cas, je prends 20. Mais demain, si on me proposait 50 ans, je prends 50 ans. Alors oui, le crédit coûte plus cher. Ça, c'est vrai. Il y a, voilà, la banque prend plus de frais parce qu'ils prennent plus de risques parce que ça dure sur plus longtemps, ce qui est normal. Par contre, les mensualités vont être moins. Par exemple, je vous donne, des chiffres. Si vous empruntez 300 000 euros aujourd'hui avec les taux actuels, si vous êtes à peu près sur 25 ans, vous allez rembourser environ 1 600 euros. Et si vous êtes par exemple sur 10 ans, vous allez rembourser 3 000. Donc on est presque au double. C'est énorme. Ça veut dire que quand vous avez un locataire, par exemple, si potentiellement le bien que vous remboursez 1 600 euros par mois sur 25 ans, vous pouvez le louer par exemple 2 000. Et ben en fait, finalement, voilà, ça va rembourser votre crédit, plus il va vous rester un peu d'argent. Par contre, si vous le remboursez sur 10 ans et que vous avez 3 000 à rembourser, bah finalement, vous pouvez toujours pas vivre de l'immobilier. Vous mettez de votre poche et donc vous pouvez pas multiplier les opérations, parce que si vous en avez un, peut-être qu'avec votre salaire, ça suffira pour rembourser le crédit. Par contre, si demain vous en avez 10, vous pouvez pas. Donc, moi, j'aurais jamais pu constituer un patrimoine immobilier comme ça si je n'avais pas fait des crédits longs. D'ailleurs, ça fait partie des erreurs que j'ai fait au tout début de mes investissements. C'est que mes deux premiers biens immobiliers, je les ai empruntés sur 15 ans, 12 ans même, il me semble. Et parce que on me disait à l'époque, bah voilà, le locatif, c'est sur 12 ans. Donc, ça peut être le discours de certaines banques. Et c'est vrai, hein. Ce qu'ils vous disent, c'est vrai. Par contre, dans la négociation, vous pouvez faire en sorte d'augmenter le temps de crédit. Et une chose aussi que je peux vous rappeler aussi, c'est n'hésitez pas. Alors déjà, on en parlera, mais voilà, faut faire des travaux et tout ça. Mais n'hésitez pas à demander un différé de crédit. Ça veut dire que vous allez payer que, par exemple, si vous prenez un différé partiel, vous allez payer que les intérêts pendant... Alors, ça peut aller jusqu'à 2 ans, votre différé. Ça, c'est 6 mois, un an et demi ou 2 ans en général. Et ce qui va permettre que pendant toute la période des travaux, vous n'allez pas payer le bien de votre poche, que les intérêts. Donc, du coup, vous n'allez pas avoir la corde au cou jusqu'à ce qu'il y ait votre premier locataire qui rentre... dans le logement. Et parfois même, vous avez quelques mois de rab où il y a déjà le locataire en place et que vous ne payez pas encore votre crédit dans la totalité. Et là, ce qui est bien de faire, c'est de garder les loyers que vous allez encaisser, de les mettre sur le compte bancaire du crédit. Comme ça, le banquier voit déjà qu'au bout de 3 mois de location, voilà, il y a un matelas financier sur votre compte. Et du coup, ça va le rassurer. Et si vous voulez enchaîner les opérations, ça va être plus simple pour vous de le faire si votre banquier voit que vous avez de l'argent sur les comptes. Donc vraiment, faites des différés, ça c'est vraiment ce que je vous conseille. J'ai aussi d'autres conseils que je vais vous donner au niveau de la taille des logements, parce que ça c'est des questions qui viennent souvent. On sait qu'on veut acheter, mais on sait pas quoi acheter, parce que quand on arrive dans l'immobilier, bah, c'est compliqué. Il y a des studios, il y a même des maisons, il y a des immeubles, il y a des appartements 5 chambres, 2 chambres, 1 chambre. Il y a même des places de parking. On sait pas quoi acheter. Alors moi, le conseil que je peux vous donner, c'est j'ai un peu analysé toutes les sortes de tailles de logements. Et lorsqu'on veut louer à l'année, en saisonnier c'est différent, je vais vous l'expliquer. Lorsqu'on veut louer à l'année, le bon compromis, c'est l'appartement 1 chambre ou 2 chambres. Alors je vais vous donner les raisons. C'est que plus le logement est petit, plus la rentabilité est élevée. Parce que c'est comme, en gros, si vous achetez des bouteilles d'eau en pack, ça va vous coûter moins cher si vous achetez 3 packs parce qu'il y a une promo, par exemple, que si vous achetez votre bouteille d'eau toute seule. Et ben, en fait, c'est la même chose dans l'immobilier. Plus vous achetez des mètres carrés, plus vous louez des mètres carrés, moins le mètre carré se loue cher. Et alors là, vous pouvez me dire, ben, pourquoi alors on prend pas tout de suite un studio? C'est souvent les logements les plus petits, donc c'est plus rentable. Alors oui, le studio, c'est aussi très bien. Par contre, pour avoir testé le marché du studio, il y a un gros turnover, parce que finalement, les studios, c'est souvent des étudiants ou alors des jeunes actifs, mais qui qui loue ce logement en attendant d'autres choses. Donc en gros, le turnover, c'est maximum, les gens restent un an en général, voire des fois moins. Du coup, la gestion, elle est quand même conséquente. Donc le fait de prendre un appartement qui a une chambre ou deux chambres, ça permet que les gens, ils sont pas dans un tout petit appartement de 20 mètres carrés, ils ont plus d'espace, du coup ils restent plus longtemps. Donc voilà, et aussi, pourquoi ne pas aller aussi sur des appartements, par exemple, 3-4 chambres ? C'est que souvent, ça va être des familles. Et moi, pour une raison de praticité, le fait qu'il y ait quand même que les logements, ça change tous les 2-3 ans de locataire, ça permet, si vous voulez augmenter le loyer, si l'endroit où vous avez investi vous le permet, de checker le bien, en sachant que vous avez le droit d'aller une fois par an voir le bien, de prévenir votre locataire et de faire le tour du bien, mais clairement personne le fait, et je pense que ça met pas vraiment dans une bonne si j'étais locataire, ça me dérangerait. Je pense que mon propriétaire va une fois par an voir si j'entretiens bien le logement, donc au niveau de la confiance entre le locataire et le propriétaire, c'est pas top. Donc en général, très peu de propriétaires font ça, mais lorsque votre locataire change, tout naturellement, vous voyez le logement. Ça vous permet d'augmenter le loyer sans augmenter à votre locataire qui est déjà en place et tout. Et c'est beaucoup plus simple. Et aussi en termes de loyers impayés, même si les loyers impayés en France, alors j'ai pas le chiffre exact, mais je crois qu'on est autour de 2%. On parle beaucoup des loyers impayés, mais finalement, quand on regarde les stats, il y en a pas tant que ça, donc faut pas trop s'inquiéter là-dessus. Mais en termes de loyers impayés, je me suis toujours dit qu'en fait, c'était plus facile finalement quand c'est un jeune un étudiant ou un jeune actif, de toute façon il avait pas prévu de rester toute sa vie là, donc dans tous les cas à un moment ou un autre il va sortir du logement, alors que quand c'est une famille, que les enfants sont scolarisés dans le quartier, qui sont là depuis 10 ans, c'est beaucoup plus compliqué de les déloger, même s'ils ne payent pas leur loyer. Donc j'ai reçu quelques questions lorsque j'ai partagé sur les réseaux, le fait que j'allais vous donner des conseils, que ça allait être une émission un peu spéciale. J'ai reçu des questions. On va les voir ensemble. Alors, j'ai reçu une question de Aurore qui nous demande, est-ce possible de déduire des meubles achetés d'occasion de son bilan ou de ses charges, lorsqu'on a acheté un bien lorsqu'on a acheté un bien locatif. Alors en fait, c'est très simple, parce que souvent on se dit, comment je fais, parce que j'ai envie de payer les meubles moins chers, parce que je me suis retrouvée dans cette situation au tout début, lorsque j'ai créé ma première SCI, je me disais, mais en fait, c'est pas logique, parce que j'achète d'occasion pour moi, mes meubles à moi personnels, et finalement, dans mes locations, je peux pas le faire, parce que comme je n'ai pas de facture, finalement, je peux pas le donner au comptable, donc je vais devoir les payer de ma poche si je fais ça, donc il n'y a pas d'intérêt. Et du coup, donc j'ai appelé mon comptable, je lui ai posé la question, je lui ai dit comment je peux faire, parce que j'ai pas envie de payer les meubles plus chers, alors que j'ai des techniques, en plus même pour la planète, c'est mieux, il y a plein de choses. Et du coup, mon comptable m'a dit, mais en fait, moi, il y a pas de problème, à partir du moment où j'ai une attestation sur l'honneur du vendeur qui vous a vendu ça, c'est bon. Donc en gros, et même avec mon banquier où j'avais réussi à emprunter une partie pour les meubles, il me débloquait les fonds quand je lui fournissais ce document. Donc en gros, quand j'achetais d'occasion et que je rencontrais la personne, par exemple j'achetais un canapé, monsieur Intel atteste sur l'honneur avoir vendu à Alison Jenglin un canapé à 400 € tel jour à telle heure machin. Et en fait, ce document là, ça vaut comme une facture dans votre bilan. Donc, faut le savoir, que ne vous empêchez pas d'acheter d'occasion par rapport aux factures, parce que vous avez le droit de le faire. Et surtout, c'est surtout au début. Alors maintenant, je le fais un peu moins, mais au début des investissements, clairement, si on veut économiser de l'argent, parce que souvent on emprunte pour les travaux, mais pas vraiment pour les meubles. Et les meubles, ça a quand même un coût dans le projet immobilier, et ça va vous permettre d'économiser au moins 70% de meubles, et d'avoir en plus des beaux meubles et des meubles qu'on trouve pas forcément partout. Donc voilà, ce que je vous conseille vraiment de faire, c'est faites des attestations à chaque fois des personnes, et vous allez pouvoir passer vos meubles dans votre bilan sans problème. Nous avons reçu une autre question également de Thierry, qui nous demande, à tarif égal, vaut-il mieux acheter une maison ou deux appartements ? Alors celle-ci, j'ai choisi cette question parce que elle est revenue plusieurs fois sous différentes formes, je pense que c'est une question que beaucoup de gens peuvent se poser. Et souvent on se dit, je prends une maison, comme ça c'est plus simple, et puis je loue. Alors Moi, c'est pas du tout mon point de vue. Je pense que il y a deux choses que je pense. Déjà, le fait d'acheter deux appartements plutôt qu'une maison, ben, déjà, je vous en parlais, c'est que si vous louez à des jeunes actifs, ça va vous permettre régulièrement de voir votre logement, d'augmenter le loyer sans augmenter à la personne qui est déjà en place. En cas d'impayé, c'est plus simple. Et surtout, comme je vous le disais, plus il y a de mètres carrés, moins on peut louer cher au mètre carré. Donc, le fait d'avoir deux apparts, au final, ça sera plus rentable. Et surtout, une maison, n'oubliez pas que vous avez tous les frais extérieurs qui s'ajoutent, alors qu'un appartement, ce n'est pas le cas. Si vous avez un grand jardin, des arbres, c'est quand même genre toute la façade de votre maison, voilà, toutes les choses là. Alors que dans l'appartement, souvent, les espaces verts, c'est quand même très limité, ça fait partie des charges, c'est quelques euros. Donc voilà le conseil que je peux vous donner. Et c'est comme, il y a aussi autre chose. Alors ça, c'est de mon point de vue personnel, hein, c'est pas... Tout est bon, mais souvent on me dit « Oui, Alison, j'aimerais acheter avec mon conjoint deux appartements. » Eh bien, plutôt que d'acheter deux appartements à deux, des fois, est-ce qu'il ne vaut pas mieux acheter un appartement chacun ? Tout dépend, en fait, de... déjà, la première chose, c'est acheter en SCI quand vous achetez à plusieurs, parce qu'on ne sait pas de quoi la vie est faite. Et si demain, vous décidez de vous séparer, de séparer aussi les biens que vous avez achetés ensemble, le fait d'acheter en SCI, c'est beaucoup plus simple parce que vous revendez des parts à l'un et à l'autre et vous ne revendez pas des biens. Donc, du coup, c'est beaucoup plus simple pour la cession. Et il faut savoir que, du coup, c'est la SCI qui détient le crédit. Donc, même en cas de cession de parts, finalement, vous n'avez pas besoin de retourner voir la banque pour avoir un nouveau crédit, puisque ça sera toujours la SCI qui détiendra le crédit. C'est juste les parts de la SCI qui ne seront pas plus détenues par les mêmes personnes. Donc voilà. Et alors, parce qu'il y a eu énormément de questions, donc il a fallu que je choisisse pour pas faire une émission de deux heures. Mais dans les autres questions, il y avait une question de Sarah qui demandait est-ce qu'il vaut mieux acheter du neuf ou un bien à rénover ? Alors ça, c'est la grande question parce que clairement, il faut tout, en tout cas, si on veut en vivre, si on veut vraiment vivre de l'immobilier, avoir de la rentabilité sur du locatif, il faut absolument acheter à rénover. Parce que, alors j'ai déjà acheté du neuf dans ma vie et c'était pas une mauvaise affaire. Mais parce que je ne le savais pas qu'il fallait faire ça. Et je pense que si j'avais acheté la même chose dans la même rue à rénover, j'aurais gagné beaucoup plus d'argent. En fait, lorsqu'on achète neuf, il faut se dire une chose, c'est que quelqu'un a fait... le travail que vous auriez dû faire vous. Donc en gros, gérer les travaux, choisir les matériaux, voilà tout ça, et choisir les artisans, quelqu'un d'autre l'a fait pour vous. Donc forcément, ça a un coût. Donc vous allez payer au prix cher. De toute façon, vous avez juste une chose à faire, c'est aller sur toutes les plateformes de vente d'appartements. Vous recherchez dans la même rue, vous regardez où il y a des biens neufs et d'occasion dans la même... Enfin, pas d'occasion, mais à rénover dans la même rue. Et vous allez voir la différence de tarif au mètre carré. Et il faut partir du principe que vous, une fois le bien rénové, alors vous ne pourrez pas être au tarif au mètre carré du neuf, mais pas loin, si vous faites une belle déco et une belle réno. Donc honnêtement, n'achetez pas du neuf. Évitez aussi les lois de défiscalisation et tout, parce que vous allez être coincé au niveau du montant des loyers, plein de choses comme ça. Et le principe d'acheter à rénover, c'est de faire du plus beau pour pouvoir louer à un prix qui est le prix du marché. Mais comme vous allez avoir un bien qui est plus beau que les autres, forcément, vous allez avoir un loyer plus élevé que les autres. Lorsque vous n'êtes pas dans une ville avec les loyers encadrés. Donc voilà, j'ai pris aussi une question de Victor. J'ai peur de me lancer. Quel conseil pourrais-tu me donner ? Alors ça, c'est la peur de se lancer. Je pense que c'est ce que je vois le plus souvent. C'est que même lorsqu'on sait toutes les règles, on sait comment on doit faire pour avoir un bien rentable. Mais en fait, on a toujours un peu peur au fond de nous de se dire oui, mais si jamais j'arrive pas, en fait, comment je fais pour payer mon crédit ? C'était la première chose que je me suis dite lorsque j'ai acheté mon premier appart. C'était un crédit de 60 000 euros. Je remboursais à l'époque à peu près 550 euros, ce qui était énorme et ce qui me paraissait énorme. Et en fait, je me disais, mais si jamais j'ai pas de locataire et que je paye de ma poche, au bout d'un moment, je vais être coincée. Mais il faut savoir qu'il y a des règles à respecter en IMO. Et lorsque vous faites vos calculs, il faut que ce que vous avez à rembourser mensuellement, ça soit couvert complètement à 100% minimum par le locataire. À partir du moment déjà où vous faites ça, vous vous dites déjà j'ai pas un euro à sortir de ma poche, sauf s'il y a un chauffe-eau à changer et tout. Donc c'est pour ça que normalement il faut que ça dépasse quand même. Mais déjà la première chose c'est de se dire au niveau des mensualités, voilà tout est couvert. Mais avant même tout ça, ce que je regarde à chaque fois pour être sûr de pas me tromper, parce que franchement, quand on achète un bien immobilier, c'est quand même quelque chose, quoi. On doit tous les mois quelque chose à la banque pour qui nous a prêté de l'argent. Enfin, on est toujours sur, même quand c'est un bien immobilier genre pas cher, par exemple quand on parlait de 60 000 euros, mais en fait 60 000 euros c'est quand même énorme. Donc du coup, le calcul que je fais, il est très simple, c'est je me dis ok, combien j'ai acheté mon bien, combien de frais de notaire. Les frais de bancaire, si vous en avez, il faut savoir que ça, c'est toujours négociable aussi. Et ensuite, se dire, OK, combien j'en ai de travaux, les meubles et tout. Et une fois entièrement fini, combien je vais pouvoir le revendre? Alors là, on n'est pas dans du marchand de biens. Moi, par exemple, j'ai créé ma société de marchand de biens il y a tout pile un an, alors que ça fait 12-13 ans que j'investis dans l'immo. Mais en fait, j'ai toujours réfléchi comme ça, de me dire, si un jour je suis coincée avec mon bien, combien je peux le revendre, parce qu'il faut au moins que ça couvre la totalité des frais que cet achat a engendré, m'a engendré, parce que sinon, je vais me retrouver avec des dettes et c'est pas le but. Et logiquement, quand vous faites bien les choses, que vous achetez vraiment un bien à rénover, c'est pour ça que je vous dis acheter à rénover, parce que quand vous achetez un bien neuf, vous le payez, vous le surpayez, et en plus avant qu'il soit, alors un jour il devient rentable, hein, c'est comme je vous expliquais au début de l'émission, c'est du moment que vous gardez et que vous ne vendez pas à un mauvais moment, le bien neuf que vous allez acheter, vous le gardez 7, 8, 10 ans, dans 10 ans je vous garantis que vous allez vous faire de l'argent avec. Mais moi, mon but c'est pas de me faire de l'argent dans 10 ans, c'est de me faire de l'argent à partir du moment où j'ai acheté mon bien presque. Donc, ce que vous faites, vous calculez, et à partir du moment où le bien, vous pouvez le revendre plus cher que la totalité de ce que vous avez payé, normalement, en général, bon, à part si c'est vraiment un studio que vous avez payé pas cher et tout, mais en moyenne, faudrait au moins avoir entre 30 et 40 000 euros, mais des fois, vous allez voir, hein, des fois, vous avez 150 000. Hein. Ça dépend vraiment du bien, de l'emplacement. D'ailleurs, si je peux vous donner un conseil au niveau de l'emplacement, alors ça, c'est une règle qui n'existe nulle part, à part dans ma tête, mais j'ai toujours fait comme ça pour avoir des biens où je me disais que je n'étais pas mariée avec, et que je veux me dire, si demain j'ai envie de me séparer de tous mes biens immobiliers, ben, qu'ils soient vendus dans les quelques mois qui suivent, et que pas que je garde des biens pendant des années, parce que ça arrive souvent, et je pense que tout le monde connaît quelqu'un qui vend un bien depuis des années et qui n'arrive pas à le vendre. Donc, les deux règles que je m'implique à moi, mais on peut quand même faire des très bonnes affaires sans suivre ces règles, mais quand on suit ces règles, on ne fait pas d'erreur, c'est d'acheter un bien qui se trouve à 10 minutes d'un centre-ville en voiture et à 10 minutes d'une autoroute. À partir du moment où on fait ça, on ne se trompe pas. Parce que lorsqu'on met en vente, c'est forcément des biens qui sont recherchés, en fait, parce qu'ils sont près de la ville, parce qu'il y a un accès rapide avec l'autoroute, et à partir du moment où tous mes biens sont à chaque fois dans ces périmètres-là. Et jusqu'à maintenant, dès que j'ai mis un bien en vente, il s'est vendu très rapidement. Donc ça, c'est le conseil que je peux vous donner. Maintenant, au niveau de l'emplacement, c'est parce que c'est pour ça que je vous disais que parfois, en fait, vous pouvez quand même faire des très bonnes affaires, même si ça ne fait pas partie de ces 10 minutes. Parce qu'il y a deux choses qu'on peut mettre en place pour vivre de l'immobilier, deux stratégies qui sont un peu connues dans le monde des investisseurs. C'est soit vous achetez, donc comme je vous dis, près d'un centre-ville ou en centre-ville. Donc là, vous allez avoir un peu moins de renta. Par contre, la valeur de votre bien va vraiment augmenter parce que vous êtes bien placé. Donc, voilà, c'est un bien qui perd jamais de valeur. Soit vous allez beaucoup plus loin. Donc là, il y a certaines villes, en fait, beaucoup en France d'ailleurs, où là, vous allez payer un immeuble le même prix qu'un appart en ville. Genre, vous êtes, je sais pas, 200 000, vous avez 4 appartes et tout. Le prix de la location, donc vous allez payer beaucoup moins cher. Le prix de la location, il est quasiment, alors il est un peu moins cher qu'en ville, mais c'est pas proportionnel par rapport au prix d'achat. Ça veut dire que là, vous allez vraiment gagner de l'argent. Genre, avec un immeuble, vous pouvez gagner en bénéfice 2000 euros par mois dans votre poche tous les mois. Par contre, le jour où vous allez vouloir revendre, ben, votre bien, il prend pas de valeur, en fait, il est toujours au même point. Et c'est beaucoup plus compliqué à revendre parce que vous avez beaucoup moins d'acheteurs à ces endroits-là. Donc, peut-être potentiellement même, vous n'arrivez pas à le revendre. Enfin, voilà. Mais après, c'est une stratégie. Vous achetez 2-3 immeubles comme ça et vous avez des rentes qui tombent tous les mois. C'est possible aussi. Moi, ça n'est pas la mienne parce que je joue aussi sur la plus-value latente, en fait, finalement, qui va. La plus-value latente, c'est en fait ce qui va, lorsque vous allez vendre le bien, combien vous pouvez en retirer, qui vous restera dans votre poche une fois que vous avez remboursé tout le crédit et tout. Et en fait, cette plus-value latente-là, elle rentre en compte aussi dans le calcul de la banque. Ça veut dire que si demain vous avez 5 appartements, vous redemandez un crédit, vous avez une fiche à remplir dans les trois quarts des banques, et si la banque vous ne donne pas cette fiche, je vous conseille de le faire, c'est de noter, bah voilà, moi j'ai tel bien que j'ai payé tant, où il me reste tant à payer et qui est évalué à, je sais pas, 100 000 euros de plus, 200 000 euros de plus. Enfin, voilà, c'est vraiment, on est à chaque fois sur des montants-là. Et quand vous avez 3-4 apparts, ça peut vite monter. Et les banques prennent vraiment ça en compte parce qu'ils se disent, ben voilà, la personne, si elle revend ses biens, il lui reste quand même aussi beaucoup d'argent. Donc, c'est comme un peu de l'épargne pour les banques. Alors, pas exactement, mais en tout cas, ça joue en votre faveur. Donc, voilà. Je vous ai un peu voilà, dit le plus gros, en fait, ce qui est le plus important à suivre dans l'immobilier. Il y a encore plein d'autres choses maintenant. Voilà, on n'est pas sur une émission qui dure 2 heures. Mais suivez déjà ces conseils-là. Et le premier conseil, c'est d'ouvrir toutes les plateformes où ils vendent l'immobilier et d'aller acheter quelque chose. Ça, c'est la première chose que je peux vous dire. Et faites-le, mais genre dès maintenant. Donc, j'espère que cette émission spéciale vous a plu. En tout cas, j'étais ravie de vous expliquer tous ces petits tips et de partager tout ça avec vous. Je vous donne rendez-vous le mois prochain sur Radio Immo dans l'émission Bien Investir avec Alison. Et je vous invite également à télécharger l'application Radio Immo où vous allez pouvoir voir le replay et voir toutes les autres émissions qui vous donnent plein de tips pour réussir dans l'immobilier. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt.
Bien investir avec Alison, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli de Radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.